Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 7h44, merci d'être avec nous. Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Cédric O, secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques.
Bonjour Cédric O.
Bonjour.
Les smartphones, les ordinateurs, tout le monde digital pollue-t-il véritablement la planète? On va en parler dans un instant parce que vous allez présenter un plan vert numérique aujourd'hui avec Barbara Pompili. Juste avant ça quand même, plus de 12 millions de Français ont téléchargé l'application. 13 millions, c'est ça, j'ai dit plus de 12. Donc on est bon, on est raccord, hein. Tous anti-Covid. Quelle est sa véritable utilité aujourd'hui de cette application?
Alors, il faut regarder les choses de manière assez précise. Donc, il y a 13 millions de personnes qui l'ont téléchargé. Il y a 90 000 personnes, surtout, qui ont reçu une notification. Donc,
90 000, oui.
Ouais, un peu moins de 90 000, 86, je crois. Et donc, ce sont des personnes qui ont pu s'isoler. En ce moment, c'est un peu plus de 1000 personnes par jour qui reçoivent des notifications. Et ce qu'on estime, c'est que ça a sauvé quelques dizaines de vies et que ça a évité quelques centaines d'hospitalisations. Donc, c'est quelque chose qui est utile. Et qui a permis d'avoir une utilité sanitaire.
Ça pourrait être encore plus utile. Ils ont reçu des alertes.
Ils ont reçu des alertes, ouais. Ils ont évité de voir leurs proches, etc., etc. Et donc, on estime que c'est utile. Ça pourrait être encore plus utile. D'abord, s'il y avait encore plus de monde qui l'avait téléchargé. Ouais. Il est vrai que dans aucun pays d'Europe, ça n'a permis d'arrêter la pandémie, mais ça a sauvé des vies. Et puis, on travaille à un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, par exemple pour remplacer les cahiers de rappel lorsque les restaurants rouvriront.
C'est ça, ça peut être le fameux certificat sanitaire que l'on évoque beaucoup. On a parlé
alors,
du passeport.
On ne parle pas du certificat sanitaire, là on parle quand vous allez dans un restaurant, en fait, il y a un QR code, vous vous flashez, et si quelqu'un qui a été sur la même plage horaire que vous dans le restaurant se déclare malade, tout le monde est prévenu. Ouais. En Angleterre, les estimations de l'université d'Oxford, c'est que ça a évité 600 000 contaminations, parce qu'il y a ce dispositif qui a été déployé. Et donc, on travaille sur ce genre de fonctionnalité pour le jour où les restaurants...
Non, mais c'est ça, ce sera le passeport, en quelque sorte, non? Avec le QR code, pour pouvoir voyager, aller dans les restos, dans les cinémas, dans les stades... Non, mais
C'est pas le passeport sanitaire ou le passeport vaccinal dont on parle,
non.
Mais c'est une garantie supplémentaire qui permettra de rouvrir les restaurants dans des conditions plus sécurisées.
Mais en revanche, on ne pourra pas savoir sur cette application si on a été vacciné ou pas. Il n'y aura pas cette fonctionnalité.
Aujourd'hui, on ne travaille pas sur ce sujet-là.
Mais ça peut être développé ou pas, ça?
Bah, écoutez, à ce stade, je crois que le gouvernement a été assez clair sur le fait que le passeport vaccinal n'était pas souhaitable pour aujourd'hui. La forme qu'il prendrait si jamais il existait est encore indéterminée aujourd'hui.
Oui, bon, voilà. Donc, dans les mois qui viennent... Est-ce qu'il y a des modèles, justement, qui sont très intéressants? Vous avez parlé d'Angleterre, l'échelle mondiale, parce que souvent, on cherche en fait, des modèles. On voit qu'en Corée, ça fonctionne plutôt bien, dans certains pays asiatiques qui ont, évidemment, davantage d'expérience.
Oui, alors sur ce genre de système, l'exemple anglais est très intéressant. Je parle des 600 000 contaminations évoquées. L'exemple néo-zélandais est aussi assez intéressant. Eux, ils n'ont que cette fonctionnalité sur le téléphone, c'est-à-dire cette fonctionnalité de QR code dans les restaurants. Et ça marche très bien. On sait qu'ils ont réussi à éradiquer. Alors après, c'est une île, donc c'est plus simple pour eux. Mais en tout cas, on reste attentif à tout ce qui se passe à l'étranger, effectivement.
Donc, vous présentez aujourd'hui avec Barbara Pompili un plan pour rendre le numérique plus vert, plus écolo. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, justement, sachant qu'environ 75% de nos appareils, les smartphones, sont fabriqués, et c'est de là que vient la fameuse empreinte environnementale du numérique, et qu'ils sont fabriqués à l'étranger?
Oui, alors juste dire que le numérique, c'est entre 5 et 10% de la pollution générée dans nos sociétés. Donc c'est assez limité. C'est vrai que ça augmente assez vite. Et c'est assez ambivalent parce que le numérique, ça permet aussi d'éviter beaucoup de pollution. Par exemple, quand vous faites une visio, ça évite à tout le monde de prendre sa voiture. Mais il est normal que le numérique fasse un effort. Et comme vous le dites, entre les 3/4 et les 4/5 de la pollution, c'est les appareils électroniques. Donc les premières choses, c'est qu'on a du mal à quantifier la pollution. Donc on va mettre en place un baromètre qui était demandé par la Convention citoyenne d'ailleurs pour mieux quantifier la pollution engendrée par le numérique. Le deuxième élément, et vous l'avez évoqué, c'est la réduction de l'empreinte par les portables. Les portables, les ordinateurs, les télévisions, etc. etc. Alors, déjà, il y a ce qui a été mis en place il y a quelques mois et qui est entré en vigueur, qui est l'indice de réparabilité. Et donc, quand vous allez chez Boulanger, quand vous allez acheter un ordinateur ou un téléphone portable, vous avez un indice de réparabilité sur 10. Et d'ailleurs, on voit que les entreprises les mieux classées, par exemple sur les portables ou les tablettes, ce sont notamment des entreprises françaises, une entreprise dans le sud, à Aix, Crosscall,
oui,
qui est une très belle entreprise qui fait des tablettes, des téléphones, et qui a un indice de réparabilité de 8,8, c'est-à-dire votre produit va durer plus longtemps.
Oui.
Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément que l'on veut faire, c'est développer l'utilisation du numérique, des outils du numérique pour améliorer notre impact environnemental. Ça peut être des entreprises comme Blablacar qui font du covoiturage. Ça peut être des entreprises comme Insect qui remplacent un certain nombre de condiments par des insectes. Ça peut être une entreprise comme Microfit à Montpellier qui met des algues à la place de condiments synthétiques.
Ouais.
Et donc, on investit
progressivement avec la technologie, c'est
avec
ça, on améliore.
Oui, on investit dans l'avenir.
Et alors, il y a un point toujours crucial et qui inquiète certains écologistes, vous le savez, c'est la 5G. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que la 5G est moins énergivore ou pas, justement? Et est-ce qu'elle va permettre d'avoir un impact positif
Alors, à court terme, ouais, c'est le choix que nous avons, notamment dans les villes, est assez simple. Les bandes 4G vont saturer parce que la consommation augmente et donc dans toutes les grandes villes, d'ici un an et un an et demi, vous ne pourrez plus aller sur Internet, ou en tout cas ça fonctionnera mal. Et dans ce cas-là, il y a deux choix, enfin, il y a trois choix. Soit on laisse saturer,
oui,
ce qui n'est pas notre choix, soit on remet des antennes 4G, soit on met des antennes 5G. Or pour la même bande passante, les antennes 5G consomment 10 à 20 fois moins d'électricité. Et donc, à situation égale, il vaut largement mieux diffuser la 5G que la 4G, ou alors il faut laisser saturer. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a un débat, mais qui est à plusieurs
années. Barbara Pompili est d'accord avec ça, avec vous ?
Elle est d'accord avec ça.
Ouais.
Y a un débat à plusieurs années, qui est-ce que la multiplication des objets connectés va avoir un impact négatif ou positif sur le climat. Là, il y a un débat, et c'est pour cela, notamment, que nous avons demandé à l'ARCEP, dans le cadre des prochaines générations de 5G, d'intégrer dans son cahier des charges une estimation, ou en tout cas des critères sur l'impact environnemental.
Oui, c'est ça, des études d'impact.
Exactement.
Quoi. Vous étiez hier en déplacement avec Olivier Véran à l'hôpital de Villefranche, en fait, sur Saône, qui a été victime d'une cyberattaque, hein, comme d'autres dans le sud, notamment, je pense, en fait, à Dax. Il y a une semaine, vous avez annoncé un plan d'un milliard pour cette cybersécurité. Qu'est-ce que l'on peut faire, là, tous, les uns les autres? Est-ce qu'on est à la merci, que ce soit les entreprises, mais aussi les particuliers, de ces cyberattaques?
Juste prendre conscience du problème, d'abord. En 2020, c'est 27 hôpitaux qui ont été victimes d'attaques majeures.
En France.
Ouais. En 2021, c'est un hôpital par semaine. Donc dernièrement, Dax et Villefranche-sur-Saône. En 2020 aussi, aux États-Unis, il y a 400 hôpitaux qui ont été victimes à un moment d'une attaque. Quand on dit une attaque d'hôpital, j'étais hier avec Olivier Véran à Villefranche-sur-Saône, c'est l'arrêt des systèmes d'imagerie, l'arrêt de la téléphonie, l'impossibilité pour les équipes d'accéder aux dossiers patients, la désorganisation de l'hôpital, la très grande difficulté pour continuer les chimiothérapies, le service d'urgence qui ne fonctionne plus avec ordinateur mais recommence à fonctionner sur papier. Et donc, un risque énorme. L'année dernière, il y a eu pour la première fois un mort en Allemagne d'une personne qui devait arriver à l'hôpital. L'hôpital était sous cyberattaque. Ils ont dû la détourner vers un autre hôpital. Et dans le transport, elle est malheureusement décédée. Et donc, c'est un vrai sujet qui concerne l'hôpital, mais aussi les entreprises.
Oui,
on a vu où les collectivités territoriales. On a vu que ce week-end, c'est la communauté d'agglomération du Grand Chalon qui était attaquée. Face à ça, il y a plusieurs choses. Évidemment, et c'est ce que nous avons annoncé avec le président, l'État investit dans les effectifs de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc ceux qui travaillent sur la sécurité des systèmes qui interviennent en pompiers, dans la recherche technique et technologique, parce que c'est une bataille technique et technologique. Mais le plus efficace, et ce qui est le plus important, c'est, d'une certaine manière, les gestes barrières. C'est que tout le monde doit être conscient que tout le monde est concerné. Ça veut dire qu'il faut mettre à jour les mises à jour sur son ordinateur.
Ça concerne aussi les particuliers.
Ça concerne aussi les particuliers. L'année dernière, il y a plus de 80 000 personnes qui se sont rendus sur le site cybermalveillance.gouv.fr, qui est le site où il faut aller lorsqu'on est victime d'une cyberattaque, et qui ont dit « j'ai été victime d'une cyberattaque ».
Mais dans les hôpitaux, alors il n'y a pas suffisamment ces fameux gestes barrières, c'est-à-dire que ça vient de l'extérieur.
Une question d'hôpitaux. Une attaque informatique, la plupart du temps, elle commence par un mail avec une pièce jointe qui est piégée.
Ouais.
Ou alors par ce genre de choses. Ce n'est jamais extrêmement compliqué. Donc, il faut mettre à jour vos mots de passe, avoir des mots de passe compliqués, mettre à jour, enfin télécharger les mises à jour de vos ordinateurs et de vos téléphones portables, c'est absolument indispensable.
Et sait-on qui sont ces pirates ?
On sait que la plupart du temps, ce sont des entreprises mafieuses. Il faut se rendre compte qu'il n'y a que 5 à 10
groupes...
Elles demandent des rançons, ça rapporte beaucoup d'argent.
Ouais.
Il n'y a que 5 à 10 groupes qui sont responsables de la plupart des attaques.
Ouais.
Un groupe, c'est une dizaine de personnes, la plupart du temps dans les pays de l'Est. On a remporté un certain nombre de victoires face à eux. Dans les deux dernières semaines, il y en a deux très importants qui ont été démantelés. Et donc, on va continuer. Mais en attendant, il faut vraiment que tout le monde se rende compte que chacun est une cible et qu'on adopte ces fameux gestes.
Est-ce que certains versent de l'argent, déjà, des hôpitaux, des entreprises
ou, la tendance que vous n'est plutôt pas de le faire en France,
ouais.
Pour deux raisons. D'abord, vous n'avez aucune garantie de retrouver vos données, c'est-à-dire que vous pouvez payer les centaines de milliers d'euros ou les millions d'euros qui sont demandés, mais vous n'avez pas de garantie d'accéder à vos données. Ce ne sont pas des gentlemen cambrioleurs, hein, ce sont des malfrats mafieux. Et par ailleurs, ça entretient la cybercriminalité. Il arrive que certaines entreprises, notamment à l'étranger, payent, parce que quand vous perdez plusieurs millions d'euros par jour, vous pouvez avoir la tentation de payer. Ce n'est jamais une bonne solution. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ces bons réflexes, faire des sauvegardes, éviter de cliquer sur ces pièces jointes, parce que ça évite ce genre de problème.
Oui. Cédric, autre question. Jordan Bardella et Marion Maréchal ont dénoncé une censure de Facebook, hein, selon eux. Ils parlent de censure. Est-ce que vous êtes d'accord en fait avec ce terme ou pas ?
Je ne sais pas si je serais d'accord avec ce terme. En tout cas, j'avais dit sur Donald Trump que je trouvais problématique que Facebook puisse fermer les comptes, interdire la publication de responsables politiques sans aucune supervision publique, en fonction de ces seules conditions générales d'utilisation et de l'estimation qu'ils font de ces CGU. Je n'ai pas vu quels étaient les tweets concernés par...
C'est parce qu'ils citaient notamment Génération Identitaire, hein, vous savez, alors, qui est sous la menace d'une dissolution, quoi, notamment.
S'il ne s'agit que de ce sujet-là, sans qu'il y ait contravention à la loi, oui, il y a un problème.
Ouais.
Je veux dire, c'est pas parce que c'est le Rassemblement National que il doit y avoir deux poids, deux mesures. Nous considérons, c'est d'ailleurs pour ça que nous soutenons la législation européenne sur le sujet, qui, nous l'espérons, doit être adoptée pendant la présidence française de l'Union européenne, qu'il doit y avoir une forme de supervision publique de l'application de la modération par les grands réseaux sociaux. Quand il y a 40 millions de Français sur Facebook...
Facebook,
pas
YouTube, hein, les autres aussi, réseaux sociaux, quoi, bien sûr.
On parle de Facebook en l'espèce, mais on ne peut pas laisser... Enfin, on ne peut pas considérer que ce sont uniquement des entreprises privées et que ce ne sont pas une forme d'espace public. Et donc, il doit y avoir une forme
de... Ça menace la liberté d'expression ? Parce que, bon, souvent, on parle de désinformation, etc. Mais il est normal qu'il y ait des échanges d'informations. Après, qu'elles soient bonnes, fausses, etc., c'est aux uns et aux autres de juger, aux spécialistes. Quoi.
Oui, mais disons qu'il y a tellement de personnes sur ces plateformes que ce sont devenues des formes d'espace public. Donc, il doit y avoir une forme de régulation démocratique de ces espaces publics. Ça ne peut pas être uniquement les équipes techniques ou juridiques de Facebook qui décident si tel tweet est acceptable.
Et au niveau de la France, que peut-on faire, alors, justement ?
Ça
peut passer, parce
qu'il
y a, par exemple, le CSA pour l'audiovisuel, en fait, en général, est-ce qu'il peut y avoir à terme la même chose, le même organisme pour le numérique, le digital ?
Alors, on vient de passer dans la loi séparatisme un article sur la haine en ligne qui ne concerne pas tous les sujets, mais uniquement la haine en ligne, pour introduire une forme de supervision publique de la modération. Ce que nous poussons au niveau européen, il y a un texte en discussion, c'est de faire en sorte que l'ensemble des politiques de modération puissent avoir une forme de supervision publique parce qu'on considère que ce sont des espaces démocratiques désormais.
Ouais. Question justement, Cédrico, avec Cécile.
Oui, justement, qu'est-ce qu'on fait avec cette haine en ligne ? Est-ce qu'on... là, un candidat de The Voice a été exclu du programme parce qu'il avait proféré des propos racistes sur les réseaux sociaux. Est-ce que d'abord vous soutenez le programme ? Est-ce qu'effectivement il fallait l'exclure ? Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut réguler cette haine ?
Alors, je n'ai pas vu l'exemple précis sur The Voice. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le projet de loi séparatisme, on a introduit deux choses extrêmement importantes. Donc, c'est pour ça qu'il est important de l'adopter vite. Le premier lieu, c'est la transparence sur ce que font les réseaux sociaux en matière de haine en ligne. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment leurs algorithmes fonctionnent, pourquoi ils enlèvent tel ou tel contenu. Nous ne savons pas combien ils ont de modérateurs. Je suis incapable de vous dire combien de modérateurs...
Les algorithmes, quoi, qui fonctionnent.
Les algorithmes,
quoi.
Mais aussi les gens, les personnes. À la fin, il y a toujours des personnes.
Vous dites que vous-même, alors que vous êtes membre du gouvernement,
non, je n'ai
secrétaire
aucune
d'État,
idée de, par
vous
exemple, chez Twitter ou TikTok, combien de personnes modèrent les contenus en langue française. Je ne sais pas s'ils font assez, etc. etc.
Donc, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on peut être sûr de cette transparence. C'est impossible aujourd'hui, puisqu'ils sont libres de...
Non, mais justement, dans le projet de loi séparatisme, on a introduit un article qui dit: vous devez donner au CSA accès sur pièce et sur place à ce que vous faites réellement. C'est-à-dire comment vos algorithmes fonctionnent et combien de personnes vous avez qui modèrent en langue française.
Et donc, vous pensez qu'ils vont le faire
Oui, mais c'est sous peine de sanctions financières extrêmement fortes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de base juridique qui nous permet de le faire. On introduit la base juridique. Et le deuxième élément, à partir de l'estimation qu'on fera de ce qu'ils font, c'est de dire, si vous ne faites pas assez, si on considère que en fait, vous ne faites pas assez d'efforts pour retirer les contenus problématiques, eh bien, dans ce cas-là, vous êtes passible de sanctions extrêmement fortes. Et donc, on espère, enfin, on pense que ça va permettre de diminuer, pas toute la haine en ligne, ce n'est pas vrai, mais de diminuer sensiblement le niveau de haine en ligne et d'augmenter les efforts qui sont faits par ces grands réseaux sociaux.
Merci, Cédrico, secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques. Merci d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.
Et dans un instant, le journal de 8h, à tout de suite.